À nouveau, Rudy, pour le soutien de notre cours de ce soir, pour la Refoua Shelema de Chava Bat Esther, de Dan Ben Sarah, de Sandy, Emma, Dolly, Aïda, Sarah, Simcha, Bat Shirel, et de Rivka Bat Simcha. Refoua Shelema à tout le monde, une bonne santé, beaucoup de réussite, merci beaucoup, Rudy. Alors, on y va, messieurs. Gmara. On a encore un petit passage, un petit peu comme ça, tiré par les cheveux. Et après, on aura une jolie Agada qui va arriver. Alors, pour vous repérer, on est pile en face du Tosfot Cheresh. Regardez le Tosfot Cheresh. Hop, passez dans la ligne Gemara.
Ouais, le guillemets, le petit guillemets.
Juste avant, 3 mois avant. Amar Rabbi Tanchum. Est-ce que vous l'avez? Amar Rabbi Tanchum, c'est bon, génial. Allez, on y va gentiment. Amar Rabbi Tanchum, nous enseigne. Chiger beraglo achat patour minareya. On est toujours dans ceux qui sont dispensés de la mitzvah d'aller au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Et là, on nous dit ce soir que celui qui est boiteux d'un pied, il est dispensé d'aller au Beth Amikdash. On avait vu jusqu'à présent celui qui est sourd d'une oreille, celui qui est aveugle d'un œil. Eh bien, il restait forcément celui qui n'a qu'un seul pied. D'accord ? Donc, celui qui est boiteux d'un pied, parce qu'on avait dit dans la Mishnah que celui qui est boiteux des deux pieds, il est dispensé de la mitzvah de Reiya. Pourquoi ? Ben, parce qu'il y a écrit Shalosh Regalim. D'accord ? Il faut pouvoir marcher. En plus, il faut marcher jusqu'au Beth Amikdash. C'est compliqué, c'est fatigant. Si tu es boiteux, on ne va pas t'imposer un truc que tu ne peux pas faire. Donc, ça, c'est le boiteux complet. Et là, celui qui boite que d'un seul pied. Alors lui, il est quoi? Il est dispensé ou il n'est pas dispensé? Alors, ben justement, Rabbi Tanchum, il parle de ça. Celui qui est boiteux d'un seul pied, patour, il est aussi dispensé de la mitzvah de Reiya. Pourquoi? Chez Nehemar, comme il est écrit, Shalosh Regalim Tachogli Vashana. Le verset nous dit 3 Regalim. Nous, on traduit Regalim par fête. Mais nos Chachamim font le jeu de mots suivant. Veha regalim ibarielé, prat les bas, les cabines. Le jeu de mots suivant, c'est le suivant. Le mot regalim, que l'on traduit par occasion en réalité, hein, 3 occasions dans l'année, vous viendrez au Beth Amikdash, ça vient du même mot que raglaim. Raglaim, c'est les pieds. D'accord, c'est le même mot en hébreu. Raglaim. Donc du coup, nos rachamim font ce jeu de mots en disant, puisqu'il y a écrit les pieds, il faut que tu aies 2 pieds. D'accord? Donc, du mot raglaim, j'apprends que si tu es boiteux d'un pied, tu es dispensé de la mitzvah, puisqu'il faut avoir shalosh regalim, il faut avoir ces 2 pieds qui fonctionnent normalement, convenablement, pour pouvoir aller au Beth Amikdash.
Le pluriel, il est parce qu'il y a shalosh.
Ah oui, mais c'est évident. Bien sûr que tu as raison. Le pshat, on avait un pshat tranquille, d'accord. On n'avait pas besoin de jouer en disant que c'est des pieds, etc. Shalosh, c'est normal. Mais nos maîtres, c'est comme ça qu'ils font leur drachote, hein, c'est assez fréquent. C'est qu'en fait, ils prennent que le mot tout seul et disent « Ah tiens, regarde, il y a écrit raglaim, que la fête, elle s'appelle raglaim. Regalim, elle s'appelle regalim, mais nous, on peut le lire raglaim. » Donc en fait, on fait un jeu de mots et de là, on déduit, on fait une dracha, que c'est de là qu'on apprend qu'il faut avoir les 2 pieds qui fonctionnent normalement pour aller au Beth Amikdash. Sinon, t'es dispensé. « Ve'a regalim, ibariale, tradeba les cabines. » Alors là, la Gemara, elle objecte. Elle dit, mais attends, t'exagères. Que tu me dises que le mot regalim, c'est le même mot que raglaim, je veux bien. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais de ce mot-là, j'apprends quoi? J'apprends que celui qui est totalement boiteux, il est dispensé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait appris au début dans la Mishnah. La Mishnah nous avait dit que celui qui est boiteux, il est dispensé de la mitzvah. Pourquoi il est dispensé? Parce que raglaim, il n'a pas de pied. Ah, il n'a pas de pied, donc voilà. Donc j'ai déjà utilisé le mot régalim pour me dire que celui qui est totalement boiteux, le chiger complet, que le chiger, il est dispensé de la mitzvah. Et toi, tu veux profiter du même mot pour me dire que même celui qui est boiteux d'un seul pied, il est dispensé. Mais non, tu as déjà utilisé le mot régalim, il a déjà été utilisé. Et vous savez qu'on ne peut pas faire 2 drachotes d'un même mot. Un mot, c'est pour 1 dracha. Donc du coup, on l'a déjà utilisé le mot régalim pour me dire que celui qui est boiteux, totalement boiteux, il est dispensé de la mitzvah.
C'est bizarre de dire totalement boiteux, par définition, un boiteux, il avance.
Oui, bien évidemment. Quand on dit totalement boiteux, c'est dans le sens des 2 pieds. Parce qu'en fait, c'est Rabbi Tanchum. Nous, honnêtement, jamais on aurait imaginé le truc de dire il y a une différence entre le boiteux 2 pieds et le boiteux 1 pied. On n'aurait jamais imaginé un truc pareil. Voilà, Rabbi Tanhum, il arrive, il te dit, de la même façon, tu sais, il est dans sa lancée. On est au Beth Amidrash. Il y en a un, il dit, celui qui est sourd d'une oreille, il est dispensé. Il y en a un autre, il dit, hey, moi aussi j'ai un truc. Celui qui est aveugle d'un œil, il est dispensé. Rabbi Tanhum, il s'est lancé, il dit, moi aussi j'ai un truc. Celui qui est boiteux d'un pied, il est aussi dispensé. Alors attention, c'est à la rigolade, mais ils ont chacun justifié leur dire. Donc Rabbi Tanhum, il dit, moi aussi j'ai de quoi dire. Le mot régalim, d'accord, je fais une dracha pour me dire qu'il faut avoir les deux pieds bien portants pour être concerné par la mitzvah.
Il l'a déjà utilisé en fait.
Mais alors, du coup, la Gemara lui objecte, il dit, ah non, toi on t'arrête. Toi on t'arrête, pourquoi? Parce que le mot régalim que tu utilises, il a déjà été utilisé
au début
ouais. D'accord, pour dire que le mot régalim vient exclure celui qui est totalement boiteux, d'accord, pas juste boiteux d'un seul pied. Et là, comment il s'en sort, Rabbi Tanhum? Il dit, non, prat les baalé cabine. Le mot régalim vient exclure celui qui a comment on appelle ça, qui a un pied en bois. Comment on appelle ça? Comment ils ont traduit en français?
Prothèse, hein.
Une prothèse, ouais, une prothèse. Ils ont mis prothèse, ils ont mis quoi? Tu l'as, Auriel? Ah, t'es pas dedans? Tu l'as en français? Je voudrais bien savoir comment ils ont mis. Est-ce qu'ils ont mis prothèse ou est-ce qu'ils ont mis un pied beau?
Non, parce que des fois que...
Ouais, ouais, exact, c'est pas le même truc. Un pied en bois, ils ont mis
pied en bois.
Pied en bois, ok. D'accord, ça vient exclure.
C'est un pied en bois.
C'est un pied en bois, ok. Et il y a une petite note, quelque chose?
Oui, celui dans le pied était amputé et vidé.
Ouais.
Vider un petit bloc de bois appelé cave, le remplissait de chiffon et insérer le moignon de la jambe dedans, de sorte que le bois servait de pied artificiel, selon Rashi, ça. La Gemara soutient que le mot régalim n'exclut de la mitzvah de Reya que ceux à qui il manque vraiment un pied. Celui qui est simplement boiteux est soumis à la mitzvah.
C'est ça. En fait, ouais, c'est ça. Radak, c'est un kudjat, en fait. Radak, ouais, c'est ça, en fait. D'accord. Et alors, la Gemara, comment elle va sortir de cela? On dit, ahou, mi peramim nafka. Netanya, peramim, ve en peramim, et la raglaim. Et là, en fait, on va avoir un petit truc de vocabulaire sur lequel on ne s'y attendait pas, effectivement. Il est écrit également à propos des trois fêtes de pèlerinage. De la même façon qu'il est écrit Shalosh Regalim, il y a également écrit Shalosh Peamim Bashana, Yera Ekol Zechurecha, que l'on traduit simplement, hein, Paam, c'est une fois, hein, trois fois dans l'année, tous les mâles doivent aller au Beth Amikdash. Ok, il n'y a rien de sorcier, hein, dans cette traduction-là. La Gemara va dire, tu sais quoi? Le mot Paamim, il veut dire également pied. Comme Raglaïm. Ah ouais, j'ai jamais vu que Pahamim, ça veut dire pied. Et nous donne la preuve. On a la preuve. Écoutez ça. Vechen ou Omer, j'ai un verset dans Ishaïa qui nous dit Tirmesna Ragel, Ragleane, Ani, Parame Dalim. Là-bas, dans ce passouk, on voit quoi? Le mot Parame Dalim, et la traduction là-bas du mot Param, c'est un pied. Le pied des malheureux, des indigents. Véomer, et j'ai une deuxième source qui est beaucoup plus fréquente, que nous, on connaît tous, on aurait dû l'avoir en tête tout seul, dans le Shirachirim. Il est écrit quoi dans le Shirachirim? Mayafu peamayir banealim batnadiv. Que tes pieds sont beaux, toi qui es la fille du généreux. Bon, c'est un perso de Shirachirim, hein, c'est un peu compliqué à interpréter, mais il n'empêche que le mot paamim, ça veut dire un pied. Ça veut dire pied. Mayafu peamayir banealim batnadiv. Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, toi qui es la fille du généreux. Donc le mot paamim, ça veut déjà dire pied. C'est de ce mot-là, dit Rabbi Tanhum, qu'on exclut le kudjat. Celui qui est totalement boiteux, on l'apprend de paamim. Parce qu'il y a écrit à propos des trois fêtes de pèlerinage, Shalosh Peamim Bashana. Celui qui est boiteux d'un seul pied, je l'apprends du mot régal. Et celui-là, il n'a pas encore été utilisé. Parce que c'est le mot Peamim qui avait été utilisé pour exclure le boiteux complet. Donc, du coup, le mot régalim est libre.
Ah, je pensais à l'inverse.
Moi. Non, c'est dans ce sens-là. D'accord. Donc, Rabbi Tanhum, il tient son truc. Rabbi Tanhum, il tient sa dracha. Le mot régalim, c'est bien celui qui me permet de dire que celui qui est boiteux d'un pied, il est dispensé. Et le mot péamim de ce mot-là, j'apprends que celui qui est boiteux des deux pieds, il était dispensé.
Je comprends, mais alors pourquoi on pose la question pour celui qui a un seul pied dans ce cas-là?
Parce que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle avait dit au début? La Mishnah, elle avait dit celui qui est boiteux des deux pieds.
Okay.
De là, moi j'aurais pu dire quoi? Si toi t'es boiteux d'un seul pied, je dis, toi tu dois y aller.
Ouais.
Ok. Donc Rabbi Tanhoum, il vient dit, fais pas l'erreur. Non seulement celui qui est boiteux des deux pieds, il est dispensé, mais même celui qui est boiteux d'un seul pied, il est dispensé aussi. D'où tu l'apprends? Du mot régalim. Ah ouais, mais pourtant régalim, c'est celui qui... On l'a déjà utilisé ce mot-là pour exclure celui qui est boiteux des deux pieds. Il dit non, pour moi, la dracha, c'est pas ça. La dracha, c'est le mot péamim. Le mot péamim, je viens exclure celui qui est totalement boiteux. Le mot raglaïm vient m'exclure celui qui est boiteux d'un seul pied.
Exactement, quand il revient...
Exactement, lui, il tient sa dracha dans ce sens-là. Et là, puisqu'on a donné ce verset de Shir HaShirim qui est un peu énigmatique, hein, d'accord, que sont beaux tes pieds dans tes chaussures, toi la fille du généreux. De quoi on parle dans ce verset? Darash Rava. Rava, il fait la drasha donc sur le Shir HaShirim. Là, on n'est plus du tout dans la Gemara de Chagiga. Maïdirtiv, que signifie ce verset? Mayafu peamayir bane alimbat nadiv, que sont beaux tes pieds dans tes chaussures, toi la fille du généreux. Réponse. Kamana in raglehen shel Israël. Besha sholin la regel. De quoi on parle? En fait, c'est une louange. Je rappelle que Shir HaShirim, c'est une louange. Shir HaShirim, c'est une louange que nous, peuple d'Israël, on fait à l'égard de Dieu et que Dieu fait à l'égard de son peuple. D'accord? C'est un thème d'amour. D'accord? Entre Dieu, exactement comme un homme et sa femme, entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est l'allégorie de Shir HaShirim. Bien? Et là, dans ce verset, c'est Dieu qui fait la louange du peuple d'Israël. En disant, vous êtes quand même bon. Je vous ai embêté trois fois par an à abandonner vos familles, vos demeures, votre récolte, vos travaux des champs, etc., vos travaux des champs, etc. Et je vous demande de traverser le pays, d'aller à Jérusalem, aller avec les moyens de l'époque, d'aller à Jérusalem, de passer une semaine sur place, etc., tout déménager, toute autre maison et tout. Et vous le faites quand même. Eh bien, moi, je vous dis, je vous fais la louange. Maïa foupéa maïr. Banéalim, que tes pieds sont beaux. Au pied, en fait, de quel pied il nous parle? De la mitzvah de pèlerinage. Vous êtes des beaux pèlerins. Vous êtes magnifiques. D'accord? De voir comme ça tout le pays se déplacer, c'est magnifique. Et donc, je vous en fais la louange. Vos pieds sont magnifiques. Vos marches sont magnifiques. D'autant plus que la fameuse question qui est posée par la Torah elle-même, où on dit, mais attends, mais si, vous rendez compte, c'est une mitzvah qui concerne les hommes. Ça veut dire que, à trois occasions dans l'année, tous les hommes ne sont plus chez eux et ils vont à Jérusalem. Et ils vont y passer une semaine, donc le temps de la marche. Je vous rappelle que ceux qui sont les plus éloignés mettent deux semaines. On sait que c'est deux semaines. Les plus éloignés, c'est deux semaines, puisque on prie pour la fête de Soukhot, après la fête de Soukhot pour la pluie, deux semaines après Soukhot. Pourquoi deux semaines? C'est le temps que les pèlerins puissent arriver chez eux. Donc les plus éloignés, ils mettent deux semaines pour arriver. Donc, deux semaines pour arriver, deux semaines pour partir, une semaine sur place. Et pendant pas mal de temps, quand même, tous les hommes ne sont pas chez eux.
C'est les cinq semaines.
Ok, c'est énorme. Et tu rebelotes à Shavuot, et rebelotes à Sukkot, et Pessah. Enfin, c'est énorme. La Torah dit elle-même, dans Devarim, elle dit, et ne vous inquiétez pas, je vous promets, moi Hachem, que malgré le fait que tous les hommes, comme ça, soient en déplacement et qu'il n'y a plus personne dans les villes et les villages et tout...
Je protégerai vos enfants.
Mais oui. Mais dis-moi, n'importe quel ennemi peut renverser le pays. Mais il n'y a plus aucun homme nulle part sur le territoire, ils sont tous à Jérusalem. N'importe quelle armée peut profiter de cette occasion des trois fêtes de pèlerinage pour nous attaquer, pour violer nos femmes, pour tuer nos enfants, etc. Enfin, ça peut être un drame, l'histoire. Il y a un verset dans la Torah explicite qui nous dit... Allez à Jérusalem pendant les trois fêtes de pèlerinage et moi, je vous garantis la protection de la terre. Je vous le garantis. Promesse. Et on le fait quand même. On est quand même pas mal. Donc, du coup, quand je vois qu'on nous dit, j'adore vos pas. Vos pieds, là, dans vos chaussures, j'adore. D'accord, de marcher comme ça, de pèleriner, d'aller jusqu'à Jérusalem. Razak, bravo. Vraiment, vous êtes magnifique.
Il le faisait avec enthousiasme.
Eh ben oui, c'est ça le truc. C'est qu'aussi, tu viens en faisant la tête, Hachem, il veut pas ça. Il veut que tu viennes en étant heureux de te montrer devant un cadre où tu te montres. C'est une adhésion au projet. Donc, tu es heureux de le faire. Et d'ailleurs, c'était très festif. Hein. On nous raconte, c'était la... c'est la bambou, là, Jérusalem. D'accord, c'était la fête tous les soirs. Enfin, c'est un truc fou, mais dans la Kedusha. Mais c'était quand même la fête.
Vous donc... pas aller à Ouman trois fois.
Ouais, c'est ça. Bah, tu vas à Jérusalem, hein, t'as ton truc. Hein. D'accord, donc... Et on nous dit quoi? Donc, ça, c'est le début du verset. D'accord? Donc, Maya Foupea Maïr Bané Alim Bat Nadif, que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, toi, la fille du généreux. Donc, on a expliqué le début du verset. Donc, on a compris les beaux pieds, c'est ceux du peuple d'Israël. Et on dit Bat Nadif. C'est quoi Bat Nadif? Toi qui es la fille du généreux, c'est qui le généreux? Bito chez l'Avraham Avinu, chez Nikra Nadif. Ah! En fait, Nadif, c'est Avraham. Le généreux par excellence. Qui est le généreux par excellence dans le peuple juif? C'est Abraham. Le généreux, l'hospitalité, il ouvre sa tente à tout le monde, etc. C'est lui, Abraham. Et toi, donc, tu es la fille d'Abraham. C'est-à-dire, tu t'inscris dans le comportement d'Abraham. C'est magnifique. Comment est-ce qu'on sait que Abraham, il s'appelle généreux? Chez Néhémar, on a un verset dans les Tehilim. Nédiver Amim, Néhésafou, Am Eloke, Abraham. Tous les généreux des peuples se sont réunis. Le peuple, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Donc, on voit que Nadiv, C'est le qualificatif que l'on donne à Abraham, d'accord, par rapport à sa générosité. Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. Mais quoi? C'est seulement le Dieu d'Abraham? C'est pas aussi le Dieu de Yitzhak et de Yaakov? C'est le Dieu des trois, a priori, c'est les trois patriarches. Et là, non, en fait, voilà comment il faut comprendre. Eloé Abraham, Shaya Techila, la Guérim. Ah, et là, il y a une petite nouvelle notion là qui passe comme ça, en passant pour Rabbi Tanhum. Il nous dit. Tu sais aussi qu'est-ce qu'il a de particulier sur Abraham? Pourquoi est-ce qu'on dit le Dieu d'Abraham? Parce qu'en réalité, Abraham est le premier des convertis. C'est le premier qui a découvert. Il a découvert le monothéisme et il a fait des convertis autour de lui. Et Sarah, elle a fait des convertis autour d'elle. D'accord? Et puis, il y a eu comme ça des tas de gens qui sont venus sous l'aile de la protection divine. Donc, on nous dit en quoi il est généreux, ce Abraham? Il est généreux parce qu'il a ouvert sa connaissance à plein de nations. Et donc, c'est le Eloé Abraham, c'est le Dieu d'Abraham, en particulier par rapport à cette notion-là de rassemblement des nations. Et c'est ici le verset. Hein. C'est un verset hyper important. C'est le verset qu'on récite avant Tchonel Shofar à Rosh Hashanah. Vous savez, dans le Tehilim qu'on récite sept fois, là, juste avant.
Oui,
d'accord. Il vient de là, ce verset. Hein. Donc, c'est magnifique. Ça veut dire que juste avant le sonner le Shofar, en fait, on est en train de penser aux nations du monde qui vont se ranger, entre guillemets, sous l'aile et la direction d'Abraham, qui est le premier à donner l'orientation de la conversion. C'est incroyable. Et tac, et on sonne du chauffard avec ça. Parce que c'est le chauffard de la fin des temps également, d'accord, où toutes les nations feront teshuva et qu'elles prendront conscience de l'existence d'Hachem. Il y a encore un petit morceau. Amar Afkana. Vous savez, quand je dirais quand un rabbin entend le mot Amen ou Chazak, c'est qu'il doit arrêter de parler. C'est quand le discours commence à être long, les gens disent Razak.
C'est pas le cas.
Amar Rav Kahana. Rav Kahana doutait l'enseignement suivant. Barash Rav Natan Bar Manyumi Mishum Rabbi Tanhum. Ah bah tiens, c'est encore une dracha de Rabbi Tanhum. Alors ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est juste parce que c'est Rabbi Tanhum qui l'a dit. C'est le même auteur. Et comme on l'a déjà dit ensemble plusieurs fois, des fois il y a des enseignements, on ne sait pas où les mettre. On ne sait pas, on n'en a aucune idée. Alors, pour pas les perdre, on profite que le nom d'un rave soit cité quelque part, on en profite pour donner d'autres enseignements au même nom. D'accord? Parce qu'on se dit, bah tiens, puisqu'on parle de lui, on va donner d'autres enseignements que lui-même a rapportés, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire de Chagiga. Rien. Et vous allez le voir à quel point. Rav Natan Bar Mamniumi Mishum Rabbi Tanhum, donc voilà l'enseignement au nom de Rabbi Tanhum. Maï dirtiv, vea borek en bo maïm. Mi mashmash neymar ve'abor rek en yodeh en bo maim et la maim en bo aval nechashim ve'akravim yeshbo. C'est une racha plus que célèbre sur la paracha de la semaine dernière. Ouais, c'est ça. D'accord, on nous dit quoi? Ah, c'est quoi l'enseignement? On nous dit que quand les frères de Yosef ont jeté Yosef dans le puits, on nous dit dans le verset de la Torah que le puits était vide et qu'il n'y avait pas d'eau. Rabbi Tanhum nous dit, mais c'est une répétition. Si le puits est vide, je sais nécessairement qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi j'ai besoin de le préciser? C'est pour nous dire, le puits est vide. Il est vide. Mais il n'y a pas d'eau, sous-entendu. De l'eau, il n'y a pas, mais il y a d'autres choses que de l'eau. Et c'est de là que l'on apprend que le puits était infesté de scorpions, serpents, enfin tout ce qui traînait dans le coin, d'accord, qui était au fond du puits. Voilà, c'est tout. Il y a une question qui se pose, de savoir, est-ce que les frères... Est-ce que les frères savaient que le puits était infesté?
Oui,
bah oui, puisqu'ils l'ont balancé.
Ils ne savent pas, ils ne voient pas ce qu'il y a en dessous.
Ah, ils ne voyaient pas le fond du puits.
C'est ça ma question. Est-ce qu'ils savaient qu'au fond du puits, il y avait des scorpions, des serpents?
Moi, je pense pas.
Ils ne l'auraient pas jeté.
En tout cas, ils savaient qu'il n'y avait pas d'eau, a priori.
Si, parce qu'ils se sont dit, vu que c'est un tzadik, il va survivre.
Ah. Il y a une interprétation qui dit ça. Qui dit, toi, Yosef, tu dis que tu es un grand prophète, un machin, et que tu as une prophétie, que tu vas devenir le dirigeant, hein? Eh bien, on va voir.
On va tester.
Ils le jettent dans le puits et ils se disent, si effectivement il porte en lui un projet que Dieu va protéger, alors du coup, ça tombe bien, il y a des scorpions, on va voir s'ils vont l'attaquer ou pas. S'il n'attaque pas, c'est qu'en réalité, il a déjà quelque chose de vrai.
Il décide de l'épargner en le vendant.
Ah, de quoi?
Il décide de l'épargner.
Oui, parce qu'après, ils disent, bon, bah, si on peut se faire un peu d'argent à l'occasion, c'est bien. Et je te rappelle, je vous rappelle que il y a tout un pshat qui nous dit que c'est pas les frères. Attends, comment dire exactement pour pas se tromper? Il y a un pshat qui dit que les Midianim, là, d'accord, qui sont passés, parce que dans le texte, en fait, c'est pas du tout clair. On sait pas qui a vendu qui. Et on sait pas qui a vendu à qui, Yosef. Parce qu'on nous parle de Midianim, on y parle de Ishmaélim, et on ne sait pas qui a sorti Yosef du puits. On ne sait pas, ce n'est pas écrit dans le texte. On ne sait pas si c'est les frères qui l'ont sorti, ou si c'est les Midianim qui l'ont sorti.
L'initiative, c'est de Reuven, non? Enfin, le conseil...
Oui, mais on ne sait pas à quel moment est-ce qu'ils l'ont mis en pratique ou pas mis en pratique. Très compliqué. Très compliqué, vraiment. Les psoukim, en tout cas, ils ne sont pas clairs. Les psoukim ne sont pas clairs, et d'ailleurs, ça laisse plusieurs pshatim possibles. Savoir qui a vendu à qui et qui l'a sorti du puits. Certains disent qu'en fait, c'est pas les frères qui ont sorti Yosef du puits. Et quand ils sont venus, bah, c'était trop tard, il n'était plus dans le puits.
Ah, d'accord.
D'accord, il y a tout un truc comme ça. Bon, à approfondir. On referme la parenthèse. En tout cas, certains disent qu'ils savaient qu'il y avait que le puits était infesté, et que volontairement, ils l'ont mis là-dedans pour savoir si il allait être protégé, oui ou non. D'accord? Parce que si, du coup, c'est un vrai prophète, oui, il devrait être protégé par rapport à son projet qu'il a annoncé dans son rêve. OK. Tanou Rabana, nouvelle histoire. Maase, Berabi Yohanan ben Beroka, Verabi Elazar ben Chisma. Donc, on nous raconte une histoire.
Mais c'est un sujet avec la Gemara, non?
Là, maintenant, le seul lien maintenant avec la Gemara, c'est la mitzvah de Hakel. Puisque vous vous rappelez, on a dit que les trois fêtes de pèlerinage ont un rapport, on a fait une Gzera Shava, avec la mitzvah de Hakel. C'est une mitzvah qui ressemble énormément. Tous les 7 ans, à la fin de Sukkot, on devait aller à Jérusalem pour écouter le roi lire la Torah devant le peuple entier.
Là, c'était toute la famille.
Là, par contre, là, c'est les hommes, les femmes, les enfants, les boiteux, enfin, tout ceux, enfin, pas les boiteux, tout le monde.
Tout le monde agit, tout le pays dans un...
Tout le monde.
Sauf les sourds.
Tout le monde, sauf les sourds, exactement. Ouais. D'accord, tout le monde. En tout cas, donc, on nous raconte l'histoire. Quelle est l'histoire? Donc, il y a un rave qui s'appelle Rabbi Yohanan ben Beroka, et un deuxième qui s'appelle Rabbi Elazar ben Chisma, et ils ont été rendre visite à leur rave, qui s'appelle Rabbi Yehoshua, un très grand rave, on en parlera la semaine prochaine, Bifkirin, qui habitait dans la ville de Pekirin. Ok. L'expression « Léagbil pénérabo », aller rendre visite à son rave, c'est pas simplement « par hasard, je suis passé par là ». C'est une mitzvah d'aller rendre visite à son rave. On nous dit à quel moment? Pendant les Yom Tov. Lorsqu'il y a un Yom Tov, et c'est d'ailleurs la halakha, à Yom Tov, pendant les jours de fête, on a une mitzvah d'aller rendre visite à son rave. C'est une mitzvah qui est dans le Shulchan Aruch, jusqu'à aujourd'hui. Tu as une mitzvah d'aller voir ton rave. Pourquoi? Premièrement, en signe de respect, c'est un jour de fête, tu lui rends visite. Deuxièmement, c'est un jour où on ne travaille pas. Donc c'est le moment idéal pour étudier la Torah. Donc tu vas chez ton rave pour qu'il t'enseigne un peu de Torah. D'accord, tu vas, tu t'assois à ta table et vous allez parler de Torah. Donc, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Rabbi Yehoshua, c'est un jour de fête, donc ils vont aller voir Rabbi Yehoshua, d'accord? Ils vont lui rendre visite. Amar lahem, et il leur pose cette fameuse question, puisque vous êtes là, mes chers élèves. Mahidush aya bevet amidrash hayom. Je sais que vous êtes assidus du Bet Amidrash. Dites-moi, moi qui n'étais pas au Bet Amidrash, racontez-moi quel a été le chidush que vous avez entendu au Bet Amidrash. Donc, amenez-moi la Torah que vous avez entendue au Bet Amidrash. Amroulo, les élèves ont répondu. Talmidecha anu, ou memecha anu shotin. Il dit, chazbe shalom, jamais on n'ouvrira la bouche devant toi. Nous sommes tes élèves et nous buvons de ton eau. Sous-entendu, ta Torah, c'est... Ta... Enfin, nous, on ne boit que de ta Torah, c'est tout. On est tes élèves, attitrés. D'accord ? Donc, on était au Bet Amidrash parce que, voilà, il fallait y aller pour étudier, mais on n'a rien appris. Rien, il n'y a rien. Y a... La seule Torah que l'on a, c'est la tienne. Donc, si ce n'est pas toi qui nous enseigne quelque chose, on n'a rien. Zéro. On n'a rien à t'enseigner. Rien.
Ils n'osent pas, ils n'osent pas...
Alors, on va voir. Amar lahem, afal pichen, yefchar le Bet Amidrash belo chidush. Et il leur dit, certes, vous êtes mes élèves, c'est très gentil ce que vous venez de dire, c'est très, très, très louable, c'est très flatteur, d'accord, vous êtes mes élèves, vous ne buvez que de mon eau, etc., c'est très poétique, etc., mais, malgré tout, j'insiste, il ne peut pas exister un Bet Amidrash où il n'y a pas eu un chidouche. Un Bet Amidrash, c'est de la vie là-dedans, d'accord, ça discute, il y a des Dvar Torah, il y a un boiteux, un aveugle, un machin, il y a des Dvar Torah, il n'y a pas un jour où il y a un Bet Amidrash sans chidouche. D'ailleurs, c'est ce que nous disent nos rabbanim encore aujourd'hui. Hein. Ils nous disent, il n'existe pas de cours de Torah où il n'y a pas un chidouche. Même un cours de Torah que tu as déjà entendu, tu dis, ah non, celui-là, j'ai déjà entendu. Les maîtres nous disent, en bet amidrash belo chidouche. C'est impossible, ce n'est pas un magnéto, le rav. D'accord ? Donc forcément, même si c'est le même thème, le même sujet qui est abordé, il y a forcément un truc en plus qui va rapporter ou ramener différemment. Et lui aussi, il vit son truc différemment. Donc, et toi, tu as évolué, donc peut-être que tu vas comprendre différemment. Ça n'existe pas un Bet Amidrash où il n'y a pas un chidouche. C'est pas possible. Donc, j'insiste. Vous me dites que vous êtes mes élèves, etc. C'est très bien. Merci. Mais il n'y a pas un Bet Amidrash sans chidouche. Dites-moi qu'est-ce que vous avez appris. Shabbat shel mi haïta. Et il leur dit, et en plus, dites-moi au fait, c'était la semaine de qui, cette semaine? Vous étiez au Bet Amidrash pendant la semaine, là, parce qu'aujourd'hui c'est Yom Tov, donc vous êtes venu me voir, donc vous n'y étiez pas aujourd'hui. Mais c'était la semaine de qui? Et ils lui ont répondu, Shabbat shel Rabbi Elazar ben Azaria, Aïta. C'était le Rosh Yeshiva de la semaine, c'était Rabbi Elazar ben Azaria, que vous connaissez tous parfaitement, puisque
dans la
Haggadah. Eh ouais, bien sûr. C'est le Rav de la Haggadah, le Rav dont on parle, qui a été à l'âge de 18 ans, et qui nous dit, voilà que j'ai 18 ans, et je me réveille aujourd'hui, ce matin, comme si j'avais 70 ans. C'est lui, Rabbi Elazar ben Azaria. On racontera ça la semaine prochaine en détail. En tout cas, juste pour avoir déjà la première idée du jet de l'enseignement. Donc il dit, c'était la semaine de qui? Réponse, c'est la semaine de Rabbi Elazar ben Azaria. Ok, alors dites-moi, qu'est-ce qu'il vous a raconté? Ou bien, mais aïta agada yom, quelle était la agada du jour? La agada, donc la dracha du jour. Amroulo, mais parachat akel. Il a fait une dracha sur la mitzvah de Hakel. Ah, voilà le lien avec ce qu'on disait avant. Sur la mitzvah de Hakel. Ou Madarashba. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a raconté sur Hakel? Allez, dites-moi, allez. Dites-moi qu'est-ce qu'il a raconté. Alors, il a fait une dracha suivante. Le verset de la Torah nous dit, Hakel et Aram rassemble le peuple. Ha'anashim, les hommes. Ve'anashim, les femmes. Ve'ataf, et les enfants. Ça, c'est le verset. Donc, le Rabbi Elazar ben Azaria, il a cité le verset. Et il a fait la dracha suivante. Et il dit, Im anashim ba'im, l'ilmod. Pourquoi les hommes y viennent? On dit, il faut amener les hommes. Il faut amener les hommes pour étudier la Torah, écouter la Torah. Pourquoi ils viennent, ces hommes-là? Ils viennent pour étudier la Torah, puisque les hommes ont une obligation d'étudier la Torah, comme vous le savez. Hanashim ba'ot, l'ishmoa. Et les femmes, elles viennent pourquoi? Les femmes qui, elles, n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah dans le sens strict du terme. Pourquoi elles viennent alors du coup, laisser les tranquilles à la maison? D'accord, à quoi ça sert qu'elles viennent? Elles viennent quand même pour écouter. C'est les paroles de Torah. C'est une occasion incroyable. Tu as le roi qui lit la Torah. Il y a des choses à apprendre. D'accord, même si elles n'ont pas d'obligation d'étude, elles ont quand même une obligation de savoir. D'accord, de connaissance. Il y a plein d'alachot qui passent par les femmes. D'accord, plein. Donc il faut qu'elles écoutent. Donc, Rabbi Elazar ben Azaria a dit, les hommes viennent pour étudier. Les femmes viennent pour écouter. Taf, la mabaïne. Et les enfants, à quoi ils servent? Pourquoi tu les amènes, les enfants? À quoi ça sert d'amener les enfants? Kede liten sachar, limvi ehen. C'est pour donner du mérite à ceux qui les amènent. C'est la seule raison.
C'est même pas pour du rhino.
Pour donner du mérite à ceux qui les amènent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui t'es trimballé là, tout à t'smala d'enfants, d'accord, alors que t'habites à l'autre côté d'Israël et que tu t'es trimballé tout le monde, etc. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'amènes les enfants? En plus, les enfants, c'est le balagan. D'accord, tu les amènes, tu te rends compte, c'est un peu solennel, bien sûr, Rémoni. T'as le roi, il faut, j'imagine qu'il doit avoir un peu de silence, enfin. D'accord, t'as les enfants, t'amènes tes enfants, ça va courir partout, ça fait du bruit, enfin, ça correspond pas à la solennité de l'événement. Pourquoi tu les amènes, les enfants? Réponse: pour donner du mérite aux parents qui les amènent. Amar Lahe. il me reste deux minutes. Amar Lahe.
Il est pas arrivé le livreur.
Amar Lahe. Et Rabbi Yoshua répond quand il entend ça. Donc il entend le Dvar Torah, d'accord, c'est un joli, c'est mignon comme Dvar Torah, honnêtement. C'est mignon, mais bon, ça casse pas, voilà, c'est pas, ça casse pas une baraque. Amar Lahe, et il leur répond: Margalit Tova Haïta Beyetrem, Uvi Kashtem Lea Bedam Imeni. Il dit: vous aviez entre vos mains une pierre précieuse aussi belle que celle-là, et vous avez voulu me la détourner de moi. Comment? Comment vous aurez, vous pouvez ne pas me raconter ce... Razak. comment vous pouvez pas me raconter ce truc-là? Vous avez hésité à me raconter ce Dvar Torah? Mais c'est un truc, c'est un joyau, ce Dvar Torah. C'est le plus beau Dvar Torah de toute ma vie que j'entends. Et vous me l'avez... Quoi? Alors, il semblerait qu'il ne connaissait pas ce Dvar Torah. D'accord, qui n'a pas l'air exceptionnel. Bon, ok, peut-être, allez, pourquoi pas. Il ne connaissait pas cette dracha. Allez, combien même je te la raconte, cette dracha? Est-ce qu'il y a de quoi?
C'est sur le verset qu'on vient de...
Oui, le verset que je dis. C'est ça, la dracha, c'est tout. D'accord, donc il le dit. Quoi, vous aviez un scoop aussi grand que celui-là et vous avez voulu me le cacher? Vous n'avez pas voulu me le dire? Vous êtes fou, il a fallu que je vous tire les vers du nez pour que vous me racontiez ce Dvar Torah. Fin d'histoire. Bien évidemment... Il va falloir qu'on explique. Il va falloir qu'on explique. Qu'est-ce que ça représente exactement? D'accord? C'est quoi cette histoire? C'est qui ce Rabbi Elazar ben Azaria? Pourquoi c'est sa semaine à lui et pas la semaine d'un autre? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la semaine de qui? J'imagine qu'au Bet Amidrash, on ne change pas de Rosh Yeshiva chaque semaine. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est la semaine de qui, cette semaine? Alors, Chazak, il faudra qu'on voit cette histoire-là. D'accord? Et ensuite, ok, la Drasha, elle est mignonne. Mais de quoi dire... D'accord, que ça m'a chamboulé la vie de me raconter un truc pareil, que vous avez voulu me le cacher, etc. Qu'est-ce qu'il y a exactement derrière cette histoire? Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on approfondit cette histoire. Chazak ou pas? Rémi Hanania, il y a Kadish, ouais. Rémi Hanania, Ben Akasha,